la notion de Shabbat et d'après la définition du travail de la Rassia, telle que nous l'avons définie dans le cours précédent, telle que nous est donnée par l'enseignement de Midi, par la Torah déjà, en relation avec la construction du tabernacle. J'avais fait allusion au premier cours, nous avons donc abordé ce point. Vous vous souvenez que le texte que nous avons étudié hier, les trois versets de Shamrou, de Nisan et de Shabbat, se trouvent dans la paracha de Kitissa, c'est-à-dire immédiatement après ce rappel du commandement du Shabbat, tel que nous l'avons étudié hier, la nuance du Shabbat qui lie entre le Créateur et Israël, donc avec ce que nous disons comme Kiddush du Shabbat matin, immédiatement après va commencer le récit de la fête du Vaudor. Nous allons aujourd'hui confronter deux textes qui se trouvent l'un avant et l'autre après la paracha de Kitissa, qui concerne la faute du Vaudor, et où se trouve enseignée la relation entre la notion de Shabbat et le travail tel qu'il est défini pour la construction du bétamine. Et ensuite, nous verrons, le temps qui nous restera ce soir, la manière dont le Peri Tzadik enseigne la relation entre la notion de Bracha et la notion de Melach. Bon, je traduis très rapidement tous ces termes. Et voici donc l'objet de l'étude. Qu'est-ce qu'on appellera travail dans le sens du travail interdit le jour du Shabbat, de telle sorte que l'alliance du Shabbat soit construite. Et selon l'enseignement de la Torah, et vous le retrouvez bien entendu dans l'enseignement de la Maseret Shabbat, du traité du Talmud qui traite de ces lois, est appelé travail dans le sens de travail interdit le Shabbat, tout ce qui était nécessaire comme activité pour construire le tabernacle dans le désert, et on va pousser la notion à la limite pour construire le Beth Amigdash. Et la caractéristique des chapitres de la Torah dans le livre de l'Exode qui parle, qui décrit la construction du tabernacle, c'est d'être donné deux fois. Et je vous donne tout de suite le nom des parashiot, le nom des sidrot, c'est Teruma, Tetzaveh. Et ensuite, il y a dans Kitissa, au début de Kitissa, la troisième paracha à partir de Truma, au début de Kitissa, il y a l'achèvement des lois de la construction du Mishkan, donc du Beit HaMikdash, tabernacle, du temple. Ensuite, le récit de la faute du Vaudor dans Kitissa. Et ensuite, de nouveau, est repris la description des lois concernant la construction du Mishkan dans Vayakhel et Pekoud. Et toute la deuxième partie du livre de Shemot, du livre de l'Exode, est consacrée à ce sujet. Mais il y a cette caractéristique que les lois sont données deux fois. Entre, il y a le rappel du Shabbat. Donc, d'où on aura établi le principe que la raison pour laquelle la Torah a joint l'enseignement du Shabbat, Veshamru, Bene Israël est à Shabbat, la Hassot est à Shabbat, mais nous aurons aujourd'hui un autre texte dans Vayakhel, avec la description de l'objectif de la sortie d'Égypte, de construire le Mishkan, de construire le. Et comment traduire donc le tabernacle, le Mishkan, c'est l'endroit. Je donnerai d'abord une première approximation, le Ohel Moed. Et vous savez que dans le désert, ce qui va être le plan de ce que sera le Beth Amikdash, le temple à proprement parler à Jérusalem, dans le désert, le Mishkan, l'endroit de la résidence de la Shrina, de la présence de Dieu, est appelé le Ohel Moed. Comment nous allons traduire cette expression Ohel Moed? D'abord, très simplement, la tente de convocation, Moed. Traduction un peu développée, si vous voulez, avec le sens intérieur de cette racine Moed, qui signifie convocation. Vous savez que c'est le terme aussi dont on se sert pour dire une des catégories de fêtes du calendrier, le Moed, les Moadim. Mais c'est le jour où il y a appel à la convocation, crier Moed. C'est-à-dire on appelle l'assemblée à se rassembler. Elle est convoquée. Et la racine de Moed est très proche de la racine de Eda. Ce n'est pas exactement le même temps du verbe, mais c'est finalement le même radical. Bon, je vais lentement pour que vous commencez lentement. Mais le mot de Moed est aussi très proche du mot de Varad. Et par exemple, de l'expression Beth Varad. Et Beth Varad, je m'excuse la traduction en français, mais vous allez l'entendre comme il faut, c'est une maison de rendez-vous. Donc, Ohel Moed, c'est un lieu où on peut se donner rendez-vous. Par exemple, dans la Mishnah de Pirkei Avot que vous connaissez, Yehi betecha bet varad la hachamim. Connaissez cette Mishnah? Que ta maison soit une maison de rendez-vous pour les sages. Il faut entendre de l'étude. Voilà de quoi il s'agit. Et ici, la Mishnah veut traiter de la relation à la Torah et pour l'homme. Et il y a deux possibilités. Ou bien un homme est capable d'être Talmid Hacham, le disciple d'un sage, et la Mishnah dit, c'est une autre Mishnah, Aselecha Rav. Mais dans le premier chapitre du Pirkei Avot, le Pirkei Avot donne les consignes de construction du bayit, de construction du foyer, de chaque foyer, par rapport à toutes les vertus qu'il faut intégrer au foyer pour que le foyer soit un foyer, un vrai foyer. Eh bien, il y a une deuxième possibilité, c'est celui qui n'est pas capable d'être Talmid Chacham, pour X raisons. Ben, en principe, il y a l'idéal, et comme nous avons vu d'ailleurs dans l'année précédente, c'est que le métier d'homme soit le métier de la Torah, soit la vocation de la Torah. Mais en fin de compte, l'existence fait que tous ne sont pas capables d'être Talmid Chacham. Vous savez sans doute quelle est la règle talmudique. On essaye d'abord 5 ans. Ça vaut la peine de consacrer 5 ans de sa vie à essayer d'être Talmid Chacham. Si on n'y arrive pas, alors on change de maître et on essaye encore 5 ans. Là, ça commence à devenir sérieux. Alors si on ne arrive pas, je vous cite la cité. Entre-temps, on a appris beaucoup de choses. Et si on n'arrive pas, alors on prend un métier. En général, on devient banquier et puis on donne la dîme au Yeshua. Bon, vous avez compris à peu près quoi. Parce qu'entre-temps, on est devenu intelligent. Mais l'objectif de la Torah, c'est pas de nous rendre intelligents. Parce que l'ordre est inverse. Il faut déjà être intelligent pour pouvoir étudier la Torah. Mais entre-temps, si on n'a pas pu devenir Bamash Talmid Chacham, on est devenu un ancêtre de grands savants juifs, de grands sociologues, de grands philosophes, de grands mathématiciens. Vous savez que tous les grands penseurs juifs ont un talmudiste quelque part dans leur ascendance. Ça leur donne un peu d'ascendant. Et bon, je voulais vous raconter une anecdote à ce sujet. Et j'ai peut-être raconté aux élèves de Mayanot. Il y a quelques années, il y avait une enquête à la radio israélienne sur précisément les foyers, en particulier sur les bibliothèques dans les foyers. Vous savez qu'une caractéristique des maisons juives, il y a beaucoup de livres. Donc, il y avait un reportage à ce sujet. Alors, le reporter n'était pas particulièrement religieux, puisqu'il y a de la radio, aucun rapport, mais enfin, c'est comme ça. Et il a voulu faire un peu d'humour, disons. Et il est rentré dans un foyer où il y avait des murs entiers tapissés, les grands livres, la Gemara, le Midrash, Pranaur, Yoredea, etc. Alors, il a voulu faire un peu d'humour, il a dit, et tu crois qu'avoir lu tout ça, ça te rendra intelligent, ça te rendra haram. Le Balabit ne s'est pas démonté, il a dit, mais écoute, c'est pas ça. C'est qu'il faut d'abord être haram pour pouvoir lire tout ça. Donc, il a dit, il ne faut pas se tromper. L'étude de la Torah, ce n'est pas un exercice pour devenir intelligent. Enfin, si on n'arrive pas à être un rame entre-temps, on a un peu amélioré l'indice d'intelligence, inévitablement. C'était pourquoi il y a tellement de banquiers. Alors, en tout cas, revenons à la Torah. C'est-à-dire la Mishnah. La Mishnah dit ceci. Yehi betecha bet varad la hachamim. Et elle s'adresse à celui qui ne veut pas devenir Talmid Chacham, alors elle dit ceci, mais fais de ta maison une maison telle que les Chachamim puissent avoir l'habitude de se donner rendez-vous chez toi. Et lorsqu'ils étudient entre eux, alors la Chochma passant d'un Chacham à l'autre, quoi que ce soit, tu pourras en profiter. Vous voyez quelle est la stratégie qu'il y a là. D'ailleurs, le commentaire de Barthénora, explique de la manière suivante à propos, il me semble que j'ai cité cela une fois, mais je ne sais pas si c'est ici. À propos d'un verset du Cantique des Cantiques, et un des premiers versets du Cantique des Cantiques qui dit « Les Reach Shemanecha Tovim ». c'est une louange de la fiancée au fiancé qui dit « Les réarches émanent ratobim. Tes huiles sont bonnes quant au parfum. » Il y a l'huile elle-même, l'huile parfumée elle-même, et le parfum de l'huile. Bon, le tchat du verset a une autre portée. C'est un enseignement de Rabbi Akiva. De Rabbi Akiva, sur ce verset. « Les réarches émanent ratobim, alken alamot haevur. » Alors la bien-aimée dit au bien-aimé tes huiles sont bonnes quant au parfum. Robert qui va donner un enseignement à ce sujet, c'est que lorsque quelqu'un va chez le parfumeur, s'il a de quoi acheter du parfum, alors il achète du parfum et il s'en sert. Mais et donc dans notre problème, la comparaison, c'est celui qui peut devenir Talmid Chacham devient Talmid Chacham. Il devient le Talmid d'un Chacham. Il va chez le parfumeur acheter du parfum. Mais celui qui ne peut pas devenir Talmid Chacham, pour quelque raison que ce soit, la vie empêche. Alors, il ne peut pas rester sans la chorma. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le parfumeur, et au moment où quelqu'un qui a de quoi acheter du parfum vient acheter du parfum, quand le parfum est transvasé, vous avez compris la suite, alors il bien. Donc, je reviens à la définition de l'expression « Ohel Moed ». Le Mishkan, le tabernacle, est appelé Ohel Moed, c'est-à-dire, puisque c'était dans le désert, c'était nomade, donc c'était une tente que l'on démontait, là, là, dans toute la description, arrivé à Jérusalem, ce sera construit en Beth Amikdash, mais le Mishkan, c'est déjà le plan du Beth Amikdash. Et le Ohel Moed se traduit donc, dans ce sens-là, la tente de rendez-vous. Les traducteurs exégètes traduisent habituellement la tente d'assignation. Je suppose que ce mot de assignation, dans un ancien français, signifiait convocation, rendez-vous. Et tout se passe comme si l'histoire du monde peut être vue dans cette catégorie. Il y a un rendez-vous à réussir entre le Créateur et la créature. Et il est arrivé, dans l'histoire du monde, sur un point du temps, dans un point de l'espace, sur un point de l'être humain, de l'humanité, que cet endroit du rendez-vous a pu être construit. C'est un peu le thème par lequel je débuterai pour décrire ou définir ce qu'est le Beth Amikdash. Nous allons le comprendre très rapidement en nous référant au premier texte du Maasé Bereshit. Nous remarquons ceci, c'est que pendant tout le temps des six jours du commencement, le monde est nommé comme il était nommé dans le Midrash, Olamo Shelakadosh Baruch Hu, son monde à lui, le Créateur. C'est-à-dire que dans le monde de Dieu, le monde des six jours, il n'y a pas l'homme. Donc, voici quelle est la différence entre le monde pendant les six jours et le septième. Pendant les six jours, l'homme n'est pas là. L'homme arrive dans le monde à la fin du sixième jour, au moment où il faut dire qu'il douche. Vous vous rappelez de la comparaison. Et pendant tout ce temps-là, le monde est le monde de Dieu et il n'y a pas l'homme. Je reviendrai sur cette première proposition. Le septième jour, eh bien, le résultat du Shabbat de Dieu, c'est que le monde, c'est le monde de l'homme et tout se passe comme si Dieu est caché. Je ne dis pas absent, mais caché. Et effectivement, cette occultation va faire croire à plusieurs, à beaucoup, qu'il y a absence. Mais c'est ce que disait le texte que nous avons étudié hier. Shamru ben Israël et Shabbat, la asot et Shabbat et Rotam, ot hil olam ki sheshet yamim asa Hashem, asa Elohim, asa Hashem, et Shamayim et Haaretz, uvayom haShevi'i Shabbat v'Hinachash. Nous nous situons dans le monde du septième jour. Et nous risquons d'oublier qu'il y a quelqu'un. Parce que ce quelqu'un s'est retiré derrière une apparence, de telle sorte que, et ce que nous avons vu hier, l'histoire puisse commencer, pour que la liberté de l'homme puisse être fondée, il faut que Dieu se cache, pour employer ce terme-là. Parce que si Dieu est dévoilé comme créateur, la liberté de l'homme disparaît. Nous devenons figés comme les anges, selon l'image des anges. Nous devenons figés comme tous les autres existants, qui sont dans le monde des six jours, d'une certaine manière. Et on a bien compris cette description, alors nous pouvons aborder la réflexion ou la raison philosophique. Pourquoi il en est ainsi? Je veux dire, pourquoi il ne peut pas en être autrement dans les deux propositions. C'est-à-dire, dans le monde de Dieu, il n'y a pas de place pour l'homme. Et voilà que dans le monde de l'homme, c'est le monde des humanistes, si vous voulez, dans le monde de l'homme, il n'y a pas de place pour Dieu. Semble-t-il naturellement. Il y a une raison métaphysique à cela, qui se relie à notre sujet, et que nous allons essayer de lucider ensemble. Bon, la première proposition est simple à comprendre. On la comprend habituellement par une image que donne le Midrash. Imaginons le soleil. Dans le soleil, il n'y a pas de place pour une bougie. La lumière de la bougie est, avalée, annulée dans le feu du soleil. Il faudra donc une distance pour que déjà la lumière du soleil elle-même devienne le rayon et puisse être perçue par quelqu'un d'autre que le soleil, si j'ose dire. Bon, ne restons pas trop dans le vocabulaire de l'image, parce que ça risque d'être trop imagé, mais vous comprenez l'idée. Dans le soleil, dans le Or En Sof, dans la lumière infinie, il n'y a pas de place pour un rayon de lumière. Je pense que la comparaison est claire, mais ce n'est encore qu'une comparaison. Et l'identité de l'homme, la présence humaine, son individualité, et son existence est impossible dans le monde de Dieu. Et dans l'absolu, il n'y a pas de place pour le non-absolu. Et pour la même raison que nous allons essayer de comprendre simultanément, pour la même raison, dans le monde de l'homme, il n'y a pas encore, disons, place pour Dieu. Pourquoi? Mais pour la même raison. Parce que dans le monde de la bougie, si le soleil vient, la bougie disparaît. Donc il y a une impossibilité de la rencontre entre le Créateur et la créature. Mais il y a un rendez-vous qui a été donné dans l'alliance du Shabbat. Il faut construire un monde où cette rencontre soit possible. Un monde qui soit possiblement, simultanément, la demeure de Dieu et la demeure de l'homme. Est-ce que c'est pas trop vite? C'est-à-dire que l'objectif de cette alliance, c'est de résoudre une impossibilité. On est allié contre quelque chose. Contre quoi? Et contre quoi il y a alliance? Nous sommes tellement familiers à cette notion biblique, il y a alliance entre Dieu et l'homme, à travers Israël. Mais en vue de quoi? Que veut dire cette alliance? Et je crois qu'il faut le prendre dans le sens élémentaire. Il faut une alliance contre quelque chose d'impossible. Cette impossibilité-là, le monde est impossible. Dieu, c'est possible. L'homme, c'est possible. Et d'abord, nous existons. Donc, l'homme, c'est possible. Et puisque nous existons, Dieu, c'est possible. Ça, c'est le cours du matin. Mais vous comprenez que ça va de soi. Mais le monde, c'est pas possible. Le monde, c'est-à-dire un vrai monde. Un monde où il y aurait coprésence, transparence, présence entre Dieu et l'homme. Parce que Dieu a jugé qu'un monde où il n'y a que Dieu sans l'homme, c'est pas un monde. Alors il a créé un monde pour l'homme. Je veux dire, la preuve qu'il en est ainsi, c'est que Dieu a créé le monde de l'homme. Qu'un monde sans l'homme, c'est pas un monde. Mais corollairement, et c'est l'autre contractant de l'alliance, si vous voulez, un monde sans Dieu, c'est pas un monde. Je pense que c'est pas la peine d'analyser où on comprend ou d'ailleurs on comprend. Mais il est bien évident que vous vous rappelez, je cite souvent cet enseignement de Rav Nachman de Breslav, qui disait un jour à ses disciples, on parle de Olam Hazeh et de Olam Haba. Olam Haba, on comprend. Mais ça, c'est un juge qui parle. Mais Olam Hazeh, où c'est? Et ici, c'est l'enfer. Mais c'est une interrogation très profonde. Hein. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'aucun philosophe existentialiste même soit arrivé si loin dans l'interpellation du monde. Le monde, où est-il? De quoi parle-t-on lorsqu'on parle du monde? Nous sommes censés mentre. Dans l'enfer. Comment?
Il en parle.
Qui donc?
Bernard
Henri. C'est un juif, celui-là? Un descendant de Camuliste. Eh bien, je crois qu'il y aura une expérience existentielle très profonde. Et vous mesurez ce que peut être l'optimisme du Rav Nachman de Breslav, qui est un chassid. Et un chassid est optimiste. L'optimisme de vivre quand même dans le monde. dans le monde dont on dit que c'est Dieu qui l'a créé. C'est donc qu'il faut avoir, je dirais, une expérience, une intuition existentielle de la réalité profonde du monde, que c'est quand même un monde, malgré les apparences. Je pense que c'est aussi une des manières de définir l'optimisme. Cette formule-là, quelles que soient les apparences. Donc un rendez-vous a été donné. Tout se passe comme s'il y a une alliance entre le créateur et la créature pour faire exister un monde où cette rencontre soit possible. La spécificité de la tradition hébraïque à ce sujet, c'est que la condition, le tnaï, la clause, c'est la moralité. Et c'est là que vous trouvez la clé de tout l'enseignement de la prophétie. Et en particulier, vous l'étudierez très, très directement, de nouveau, dans les Shmoné Prakim de Maïmonide, dans les 8 chapitres de Maïmonide, dans son introduction au Tzichéor, où il y a un chapitre entier qui traite de ce thème-là. C'est-à-dire que l'opacité qu'il y a entre Dieu et l'homme dépend de la moralité. Mais c'est le fil conducteur de tout l'enseignement de la prophétie. Plus il y a de moralité, et plus ce massacre, comment dit-on, massacre,
écran.
Oui, écran, mais je veux dire voile. Ce voile devient plus transparent. Moins il y a de moralité, plus ce voile s'épaissit, s'opacifie. Et Maïmonide va jusqu'à le dire que la clarté de la vision prophétique dépend de la capacité morale. C'est-à-dire tous les prophètes sont déjà dépassant le seuil de la vision. Mais la vision est plus ou moins claire suivant que la capacité morale est plus ou moins grande. C'est pourquoi la tradition peut enseigner des niveaux chez ces grands qui sont les prophètes. Et parce que le génie de la transmission de la loi morale est plus ou moins grand. Dans tous les cas, ils sont au même niveau par rapport à nous. Mais si vous voulez, il y a une perspective. C'est pourquoi on dira que la prophétie de Moïse est la plus grande. Parce que c'est là que la loi morale elle-même est révélée. Et puis ensuite, on parlera des grands prophètes. Et ce n'est pas une question de quantité de textes qu'ils ont laissés. Quand on dit les grands prophètes et les petits prophètes, les grands et petits ici ne doivent pas être lus au niveau de la quantité de textes. Bon, disons même qu'il n'y a pas de petits prophètes dans la Bible. Je crois que là... Là, le critère est très clair et c'est très centralement dans notre sujet. C'est-à-dire, l'alliance du Shabbat, c'est que nous puissions voir le monde comme il est vraiment, c'est-à-dire une création, et non pas l'apparence qu'il a pris pour que l'histoire puisse commencer et que l'homme soit protégé, c'est-à-dire une nature. Et celui qui vit le monde du Shabbat vit dans le monde de Dieu, en rencontre, en moed, le principe de Moadim, c'est le Shabbat, en rendez-vous, en rencontre avec le Créateur, alors que dans le temps de la semaine de Shechet Yemei Ha'Ma'ase, nous sommes dans un monde qui n'est que la nature. Je dirais, si vous voulez, que pour reprendre cette notion du massacre de l'écran, il y a un degré, dont les kabbalistes ont parlé, un degré terrible. Dans cette notion de Esther Panim, la vraie face du monde est cachée. Et c'est cet écran qui nous protège. Et je veux dire qu'il y a une raison ontologique à cela. Pour que l'homme puisse exister, être situé dans sa part de la tâche de ce problème du rendez-vous, eh bien, il fallait donc que le monde soit à l'abri de l'apparence de la nature. Et tout le monde vit dans un monde qui est défini ainsi, un monde de Hester Panim. La vérité du monde est cachée. Mais il y a un degré qui devient terrible. C'est ce que les kabbalistes appellent Hester Beto Hester. C'est-à-dire le fait que ce soit caché nous est lui-même caché. Quand on ne perçoit même plus qu'il y a quelque chose de caché. C'est-à-dire lorsque le caché est caché. Lorsque le fait que ce soit caché est caché. Je ne sais pas comment exprimer ça en français, c'est appelé Esther, Beto Esther. Comment pourrait-on dire ça en français?
On ne voit pas le voile.
Hein? Quand on ne voit même pas. Donc imaginons peut-être en termes de maladie, quand quelqu'un sait qu'il est malade, alors on peut peut-être le guérir. Mais si quelqu'un est malade et qu'il ne sait même pas qu'il est malade, ça c'est Esther Beto Esther. Je pense que vous ferez vous-même toutes les analogies que l'on peut faire, effectivement, dans toutes les situations de la vie.
Mais cette situation de structure dans un monde caché, je crois que c'est la définition du juif par opposition à celle de l'hébreu.
Oui,
dans la mesure.
Dans le temps.
Qui est-ce qui s'appelle Astir, c'est Esther.
C'est juste.
Et dans un livre où le nom de Dieu n'est jamais prononcé. Et c'est Mordechai qui est appelé à Yehudi parce que pour la première fois, dans ce monde-là, il a fait comme si Dieu existait, enfin, comme si Dieu n'était pas caché.
C'est
à ce jour-là que les Juifs ont été appelés Juifs. Donc je crois que par rapport à l'exposé d'hier, c'est là que se trouve la transition entre l'hébreu et le juif.
Tout à fait. J'explique un peu plus, si vous voulez. C'est le fait que toute la période hébraïque va s'achever avec la période d'Esther et Mardoché. Le judaïsme commence, le temps des juifs commence à Esther et Mardoché. Or, dans le déroulement historique, alors il est clair que l'hébreu vit dans un monde du dévoilement, alors que le juif entre dans le temps du monde de l'occultation de ce dévoilement. Et si vous permettez que je relis, tout le monde ne suit pas le cours du matin, un peu à ce que nous étudions le matin. Vous vous rappelez, dans le deuxième cours, sur le Samut, sur le Sanhedrin, lorsque nous avons vu que quelque chose qui était évident pour l'hébreu devient expliqué pour le juif. Vous vous rappelez de ça? C'est très, très exactement cette notion. Et donc, il est bien évident que le temps des juifs ne peut être qu'un temps provisoire. Bon, je ne continue pas, vous savez où ça va. nécessaire, mais provisoire. Bon, je ne voudrais pas être trop obscur. C'est-à-dire que dans les étapes du déroulement de l'histoire d'Israël, il y a eu le temps des Hébreux, puis le temps des Juifs, qui est le temps de la dispersion, de l'occultation de la prophétie, et de nouveau le temps des Hébreux. Je ne pensais pas à autre chose. Alors, revenons en tout cas à notre problème. Tout se passe comme ceci. On pourrait dire que pendant les 6 jours du commencement, Dieu a fait la part sa part de cette œuvre, c'est-à-dire aménager son monde pour qu'il devienne habitable par l'homme. Et dès que son monde est aménagé pour qu'il devienne habitable par l'homme, il se cache pour que l'histoire du septième jour puisse commencer. À partir de là commence la part de l'homme dans cette construction du rendez-vous, c'est-à-dire de, à son tour, aménager son monde, le monde de l'homme, de telle sorte qu'il devienne habitable par Dieu. Est-ce que c'est clair? Et donc, toute cette histoire du septième jour, où le monde est donné à l'homme, va être comprise comme la construction du Beth-Amigdash, la construction du Ohel Moed. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le Ohel Moed? Qu'est-ce que c'est que le Beth-Amigdash? Une maison où Dieu et l'homme peuvent se donner en Dieu. Et c'est pourquoi elle est appelée Mishkan. Mishkan, ça veut dire le lieu de la résidence, le lieu de la Shrina, de la présence. Est-ce que c'est bien clair? Alors, ce qu'il faut bien noter, c'est bien évidemment cela que j'ai cité tout à l'heure, que le critère de la tradition hébraïque, c'est que la clause de cela, c'est la moralité. Et non pas du tout une toute autre expérience religieuse, quelle qu'elle soit. Hein, puisque l'expérience religieuse hébraïque, c'est celle de la loi de Moïse, c'est-à-dire de la moralité érigée comme sens de l'histoire. C'est cela, l'expérience religieuse de la conscience hébraïque. C'est la conscience morale. Et chose, évidemment, que les prophètes ne se lasseront jamais de répéter. Jusqu'au dernier. Zichru Torah Moshe Av. Je pense que c'est bien. Je crois qu'il y a là une raison importante de citer de nouveau Maïmonide, les 8 chapitres. Je pense que c'est le 6e chapitre des 8 chapitres. Sinon, c'est le 5e. Et où il montre effectivement que cette opacité du voile. Et jusqu'à ce degré terrible, c'est tellement opaque qu'on ne sait même pas ce qu'on voit. Je vais simplement dire une image. C'est un peu comme la nuit, mais il y a quand même les étoiles. Il faut savoir qu'il y a une lumière derrière. Et c'est au moment où on s'aperçoit qu'il y a des étoiles qu'on peut dire gratuit. Mais en tout cas, le critère est bien clair, c'est la relation qu'il y a entre la Torah et le Shabbat. C'est-à-dire, tout ça passe comme si le programme de l'histoire est défini ainsi. Voilà ce que l'humanité a à faire, à construire le Beth Amidash. Mais ça veut dire à transformer le monde en Beth Amidash. D'une certaine manière, par délégation, l'humanité, dans son histoire, a fait cela, par délégation de l'histoire d'Israël. À travers l'histoire d'Israël, il est arrivé qu'en fin de compte, le Ohel Moed a été construit. Et c'était l'objectif de la sortie des gens. Vous avez là tout le plan du livre de Shemot. Bien. Il n'y a pas de question sur cette première analyse. Simplement, j'aborde la partie juridique dans les principes. C'est pourquoi on appellera travail qui brise l'alliance du Shabbat, le témoignage que porte l'alliance du Shabbat, tout travail qui se trouve être défini comme activité devant concourir à la construction du Beth Amidash. Je vous donnerai simplement un schéma assez simple. La formule traditionnelle, c'est qu'il y a 39 travaux de base, interdit le Shabbat, Tal Melachot, et tous les travaux, non pas seulement dérivés, mais qui par analogie peuvent être rattachés dans la définition aux 39 travaux de base du Shabbat. C'est clair pour tout le monde. Et la Gemara le dit explicitement, et tous les poskim aussi l'expliquent, tous les décisionnaires l'expliquent, c'est qu'il s'agit d'analyser si telle ou telle conduite, activité, peut être rattachée par analogie à une des conduites qui était nécessaire pour construire le Beth Amidash. Mais je vous donnerai ici un schéma beaucoup plus midrashique, si vous voulez. Pourquoi 39 et pas, par exemple, un chiffre rond 40. En réalité, parce qu'il y a trois directions de l'activité humaine. Dans la définition suivante, quel est l'objectif de l'activité humaine dans l'histoire? C'est transformer le monde de nature, pour employer le vocabulaire de la sociologie, transformer le monde de nature en monde de la culture. Bon, dans notre perspective biblique, ça veut dire faire émerger la Kedusha. C'est-à-dire faire émerger l'homme de l'animalité de l'être de nature à l'humanité de la conscience morale. Je pense que le programme est très, très clair. Or, l'activité spécifiquement humaine, l'activité de vie spécifiquement humaine, de l'aménagement du monde en Beth Amidash, a trois dimensions. C'est les conduites d'activité pour se nourrir, donc tout geste qui a pour objectif la nourriture. Depuis, comment dit-on, Harosh, depuis labourer, jusqu'à finalement pétrir le pain, le cuir, etc. C'est la première dimension, la nourriture. Deuxièmement, les vêtements. Toute ligne d'activité qui a objet de concourir à l'habillement. Et puis troisièmement, la construction de la maison. La construction, le bâtiment. Et donc, il y a trois entités. Comme nous savons que l'exposant numérique de chaque unité, c'est 13, 3 fois 3, ça fait 13, 3 fois 13, ça fait 33. C'est-à-dire, voilà le schéma simple, si vous voulez, qu'on peut retenir. Bien entendu, il y a beaucoup plus de gestes définis comme étant travail interdit le Shabbat, mais parce que tout simplement, la législation établit qu'ils sont de la même nature que les 39 gestes principaux qui sont nécessaires pour aménager la maison, c'est-à-dire la nourriture, l'habillement et le bâtiment.
Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît, l'exposant numérique?
Comment?
Vous avez dit exposant numérique.
Oui, c'est-à-dire en hébreu, 1 égale 13. Je veux dire, 1 a toujours 13 dimensions. Vous le retenez de façon très simple. Echad, le mot Echad qui signifie 1, a comme valeur numérique 13. Par exemple, on parlera des 13 attributs de Dieu, les Shloshe Esremitot, et les 13 tribus d'Israël. Ça rime en français, mais d'ailleurs c'est correspondant. Les 13 tribus et les 13 attributs. Et d'ailleurs, originellement, chaque tribu avait pour tâche de réaliser sur Terre un des attributs. Et c'est l'unité de l'ensemble qui fait l'unité d'Israël correspondant à l'unité du peuple. Bon, je pense que ce thème est clair. Et donc, les 39, c'est les 3 fois. Alors, voici, si vous voulez prendre vos livres. Nous allons comparer le premier texte qui se trouve dans la paracha de Trouma, en vue de la construction du tabernacle, au deuxième texte qui se trouve dans la paracha de Vayakhel. Si vous voulez, d'ailleurs, nous allons commencer par Vayakhel. Alors prenez au chapitre 35, à partir du verset 1. Vous l'avez à la page 92 du livre de Shemot. Vayakhel Moshe, et Moïse rassembla et Kol Adat ben Israël, toute l'assemblée des enfants d'Israël, Vayomer Aleim, et il leur dit, Ele Alevarim, voici les paroles, Asher Tziva Hashem la Asodotam, que Dieu a ordonné de faire. C'est un texte qui va introduire la deuxième série des lois concernant la construction du tabernacle après la faute du Moïse. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה. פנדן סיז'ור, ספרה בקרבי.
סליחה.
ששת ימים תעשה מלאכה. תראה דונק לקורספונדנט. וביום השביעי, אלה סטיום ז'ור, יהיה לכם קודש, סורה פוגו, קונסקרית. שבת שבתון לשם. Donc, cessation d'activité absolue, Shabbat, Shabbaton, la chaîne, consacrée à Kola Osebo Melacha Yuman. Quiconque fera le septième jour une Melacha mourra. Je ne vais pas étudier, si vous voulez, au niveau de la Halacha, le problème, quels sont les chidushim de mitzvot qui sont introduits par la répétition du texte. C'est un des sept textes qui institue la loi du Shabbat. Mais avant d'aller au chapitre 3, simplement je vais vous dire ici, du point de vue même du phrasé du verset, ça signifie que celui qui n'observera pas l'alliance du Shabbat, eh bien, et par conséquent, qui fera son œuvre le jour où l'œuvre doit être achevée, Shabbat Jaïnafash, celui-là sera retranché d'une certaine manière du sens de l'histoire, de la destinée humaine et de sa vocation. C'est-à-dire, le travail de la construction du monde comme Beit HaMikdash ne peut être fait que par ceux qui sont les hommes de l'alliance du Shabbat. J'ouvre ici une parenthèse pour éclairer cela, et je vous demanderai d'ailleurs de réagir si ce n'est pas suffisamment clair. Il y a dans la Gemara un enseignement extrêmement polémique. Goy chez Shabbat, Hayav Mita. C'est-à-dire, un non-juif qui pratique Shabbat est passible de mort. Vous voyez, c'est relié à ce thème. Qu'est-ce que ça veut dire un non-juif? C'est quelqu'un qui ne vit pas selon la loi de la Torah. Alors, comment comprendre une phrase aussi abrupte, hein? Qu'est-ce que veut dire le Talmud? Goy chez Shabbat, Chayav Mita.
Est-ce qu'il faut une
préparation? Mais pourquoi passible de mort? Ça veut dire, avec le carlam, parce qu'il n'y a pas de problème. Écoutez, on pourrait donner mille explications, mais il faut comprendre le problème lui-même dans profondément. Je voulais dire en hébreu, mais. Je vais raconter un midrash pour vous donner le temps de réfléchir. Le Talmud est très perplexe concernant Abraham. Et qu'est-ce qu'il y a avec Abraham par rapport au Shabbat? Et si Abraham est encore des Bnei Noirs, fait partie encore des Bnei Noirs, alors il tombe sous cette loi de Goy chez Shabbat, Chayav Mita. Mais si Abraham est d'Israël, il faut qu'il pratique le Shabbat. Alors, ça c'est le problème d'Abraham. Et alors voilà comment la Gemara explique comment Abraham a résolu ce problème. Parce qu'il est bien évident que dans Abraham, il y a la charnière d'identité. Il est la fin des Goïs et le commencement, la fin des Bnei Noirs et le commencement d'Israël. Et suivant le principe, je ne sais pas si on arrivera à ce texte, c'est que les avot, les patriarches, ont vécu selon la Torah, et en particulier, c'est enseigné et rappelé par le Brit Tzadik, à propos du Shabbat. Déjà Abraham, un peu plus Isaac, mais surtout Jacob. Et nous le voyons à travers l'explicitation que le Midrash donne des péripéties de la vie des patriarches. Alors la Gemara dit ceci. Abraham mettait le talit. S'il est ben noir, le talit n'est pas un vêtement pour lui, et alors il a porté quelque chose. Donc il n'a pas pratiqué le shabbat. S'il est Israël, le talit est un vêtement pour lui. Donc il n'a pas porté et il a pratiqué le shabbat. C'est clair ? C'est vraiment un tirout. Mais qu'est-ce que c'est que le talit ? Et la question rebondit, qu'est-ce que c'est que le talit ? C'est les 613 000 autres. Donc de nouveau, on est devant un mystère, en fait, une difficulté. Vous savez cela, que le talit, l'enveloppement du talit, c'est s'envelopper des 613 000 autres. Et les fils des tzitzit sont agencés de telle sorte que ça renvoie à Tariad, l'ensemble de l'autre. Bon, je vous laisse réfléchir à la
question. Il y a usurpation alors quand c'est un boy qui compte le Shabbat.
Bon, mais on va réagir à la manière de la Gemara ce matin. Et pourquoi le condamner à mort ?
Parce qu'il y a usurpation, la place
musulmane. Oui, mais.
C'est pas sa loi.
Où est cette gravité d'usurpation que la Gemara va dire Hayamita ? Hayamita, ça veut dire il est passible de mort. Et d'ailleurs, on ne va pas le condamner à mort. La Gemara va raisonner de la même manière. Mida kenegil mida, il va se suicider. C'est le suicide. C'est ça que la Gemara veut dire.
Non, parce que s'il est passible de mort, ça veut dire qu'il fait des morts.
Ça veut dire que...
Il fait des morts.
En usurpant. C'est une pente de l'explication possible. D'abord, il faut s'étonner. Pourquoi une formule aussi abrupte ? Goïch et Shabbat, je vais vous raconter une histoire. Un souvenir de mes études de sociologie. Et, que j'ai raconté d'ailleurs quand on a étudié ce problème, d'autre part. En ethnologie, j'avais étudié que à la fin du siècle dernier, des sociologues ont été frappés par un phénomène dans les grandes villes d'Amérique qui commençaient à devenir des grandes métropoles. En particulier, des statistiques ont été faites à Chicago et on s'est aperçu que, je parle de la fin du siècle dernier, mais ça n'a pas changé, on s'est aperçu que le jour du dimanche, c'était le jour où la police avait le plus de travail. C'était le jour des meurtres, des viols, des vols, des rites. Tandis que dans les quartiers juifs, le jour du Shabbat, c'était le jour où la police se reposait. Alors, c'est un fait qui a intrigué les sociologues. Alors, ils ont convoqué une commission de savants, enfin des sciences humaines et de théologiens, pour essayer de comprendre. Alors, je vais vous donner tout de suite la réponse. Je pense que c'est un niveau très profond qu'il faut le comprendre. Il est bien évident que la Gemara n'a pas voulu dire que si un ben noir quelconque, un goy quelconque, veut pratiquer Shabbat, d'après la loi juive, il est passible de mort. Ce n'est pas à ce niveau-là qu'il faut entendre cela. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il se condamne à mort. C'est le problème de la cessation du travail, c'est-à-dire le problème des loisirs. Si un homme ne travaille pas et qu'il n'est pas lié à la loi morale, le temps des loisirs est pour lui mortel. Pas dans le sens de l'ennui, mais dans le sens de la déshumanisation.